Conférence privée, Père Philippe, 17 novembre 1982, Rimont.
J'ai passé à Cotignac, donc dimanche, et tous ceux de Cotignac m'ont dit de vous dire et de vous transmettre leurs bons souvenirs et leurs prières fraternelles. Et puis à Fribourg, il y a eu la petite cérémonie hier soir de l'entrée dans l'église de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, du moins ceux qui suivaient les cours à Fribourg. Vous savez, cette personne qui venait de Berne, qui depuis 8 ans suivait les cours de philosophie, et qui enfin est entrée dans l'église catholique. Elle était dans l'église protestante. Son mari reste toujours protestant, mais elle voulait, depuis déjà longtemps, elle sentait très profondément cet appel. Et alors elle est entrée hier, il y a eu une petite cérémonie très simple du reste, chez les frères, à la communauté, au Père Gérard. C'était dans l'intimité, entrée dans l'église, confirmation et communion. Et puis après le petit repas, les agapes fraternelles, très simples du reste, très simples. Et priez pour elle, parce qu'elle pensait à vous et elle est très très liée à la communauté, dans le sens qu'elle prie profondément pour la communauté. Je crois qu'il faut la porter dans vos prières. Nous allons continuer d'entrer dans ce grand mystère de Marie qui doit éclairer ce que doit être notre vie évangélique, en comprenant bien cette consécration totale à Dieu à travers Marie. Entrer dans cet esprit de virginité, de pauvreté et d'obéissance, puisque c'est le propre de cette consécration de Marie, consécration de toute elle-même. C'est l'appel intérieur de l'Esprit Saint au plus intime de son cœur. Comment s'est fait cette consécration, nous n'en savons rien. Mais la tradition a gardé ce grand mystère de la présentation de Marie au temple. C'est cette manière-là que la tradition nous le donne. Et saint Albert nous dit que Marie s'est consacrée à Dieu dans un abandon total, si tel est le bon plaisir de Dieu. L'œuvre du don de sagesse, l'œuvre du don de crainte. C'est important de comprendre que cette première consécration chrétienne, puisque Marie est là l'aurore de la vie chrétienne, cette première consécration chrétienne qui annonce le mystère de sa maternité, se fait sous cette mouvance du don de sagesse. C'est d'un nouvel ordre des choses. La vie chrétienne est d'abord une vie consacrée, en premier lieu. C'est normal que la vie chrétienne s'achève dans une consécration religieuse. Vous voyez, nous avons très peu ce sentiment-là. On considère toujours un peu que la vie religieuse est une chose un peu extraordinaire. Nous avons de la peine à comprendre que c'est la fleur normale de notre grâce chrétienne. C'est l'exigence normale de notre vie chrétienne. Et ceci, le mystère de Marie le montre. Ça a commencé comme cela. C'est ça que la tradition garde dans la présentation de Marie au temple. La tradition garde ce grand secret, c'est vrai, c'est un grand secret. C'est le secret de toute famille religieuse. Dans toute famille religieuse, on garde ce secret. Et un secret qu'on doit recevoir de la Très Sainte Vierge pour le vivre. Il ne faut pas croire que parce qu'on sait qu'on a fait profession qu'on connaît ce secret. Non, on peut être religieux sans avoir vécu de ce secret. Et on peut quelquefois vivre dans le monde et vivre de ce secret. Enfin, c'était, il ne faut pas l'oublier, la grande intuition de Marthe. Ça, je peux le dire, parce que j'ai quand même prêché plus d'une fois les engagements dans les foyers de charité. Et ce que Marthe voulait pour les foyers de charité, c'était justement de vivre l'esprit des vœux tel qu'il avait été vécu dans le cœur de Marie. Ce n'était pas quelque chose de moins que la vie religieuse. Elle aurait voulu que ce soit plus. Et elle aimait de dire que quelqu'un qui s'engageait dans les foyers de charité, normalement, aurait pu entrer au Carmel. Je vous ai déjà raconté cette petite histoire qui, moi, m'a beaucoup frappé. Parce que c'était un père de foyer qui pensait qu'un des membres de foyer aurait mieux fait au Carmel. Ce membre de foyer était là depuis déjà 2 ans. Alors il m'avait demandé, puisqu'il pouvait me le demander, c'était plus facile. Hein. Moi, je servais de père extraordinaire, sans être père de foyer. Mais il m'avait demandé de lui dire... Et alors j'ai vu de sa part une opposition. Non, non, je n'entre pas au Carmel. Non, 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 j'ai ma vocation de membre de foyer. Oui, j'ai ma vocation de membre de foyer. C'est un avoir. Alors j'ai rapporté ça à Marthe. Marthe m'a dit, ça prouve qu'elle n'a pas la vocation des foyers. Si elle avait la vocation des foyers, vous lui aurez proposé d'entrer au Carmel. Elle aurait dit, mais père, très bien. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être totalement donné. Vous croyez que je dois être plus donné là? Très bien. Ça m'a beaucoup éclairé quand Mardi est ça. C'est ça, je crois, l'esprit des vœux. L'esprit des vœux, c'est une remise entre les mains du Père par Marie. Parce que nous sommes incapables de le faire. Tous, hein. Il ne faut pas croire qu'il y en a qui sont plus en connaturalité avec les vœux. Hein. Personne d'entre nous n'est en connaturalité avec les vœux de religion. Personne. Hein. Il n'y a que l'Immaculée Conception. Alors comme nous ne sommes pas, ça je peux le dire, hein, là il y a quelque chose de commun pour tous. Nous avons tous les concupiscences du péché. Croyons pas qu'elles sont plus fortes chez les uns que chez les autres. C'est vrai, à certains moments c'est une tempête un peu plus forte, à d'autres moments c'est plus calme, mais ça demeure toujours. Hein. Et vous savez, les volcans, ça ne crache pas toujours par là où on croit, quelquefois c'est sur le côté. Alors c'est comme ça que ça se fait. Alors on croit que c'est plus calme, c'est plus paisible, et puis tout d'un coup ça revient. Tant qu'on est sur la Terre, on sait que la vie religieuse nous dépasse. C'est dans le cœur de Marie et par le cœur de Marie. C'est pour ça que la fête de la présentation de Marie au Temple, c'est une fête que nous devons aimer beaucoup. C'est notre fête intime. Et nous devons demander à Marie de nous présenter à Jésus. Et vous voyez ça, je crois que l'esprit des vœux, on le vit tout de suite. Hein. On ne peut pas vraiment être postulant. On ne peut pas vraiment être novice sans vivre déjà de l'esprit. Et quand on prononce ses vœux, on doit continuer de vivre de l'esprit, sans croire que c'est déjà arrivé, parce que c'est jamais arrivé. Et on doit toujours aller plus loin, en recommençant tout le temps à être ceux qui savent, qui sont incapables de mener cette vie. Alors ça ne doit pas nous décourager, c'est bien évident. Ça doit au contraire nous donner une grande force. Ce n'est pas notre œuvre, C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Marie a dû tellement vivre cela, l'œuvre de l'Esprit-Saint en elle. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en elle qui la noue, parce que c'est un nœud. C'est vrai, les vœux de religion, c'est un nœud. Les vœux de religion, c'est vivre de cet esprit plaigné d'abandon. Dans la foi, l'espérance et l'amour. Vous voyez, il y a trois manières de regarder les vœux de religion. Il y a trois manières. On peut les regarder comme deux fêtes nous aidant à dépasser les luttes, les trois concupiscences. On peut les regarder comme faisant de nous des serviteurs, doux, fidèles, pauvres. Ça correspond bien aux trois dimensions des vœux. Et on peut les regarder comme nous permettant de vivre pleinement de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et donc de vivre en enfant bien-aimé. Pour Marie, il n'y avait pas l'aspect de rempart contre les concupiscences. Mais Marie a vécu le mystère des vœux pour être la petite servante de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle se déclare « Je suis la servante de Dieu ». Vous voyez, Marie, quand elle dit « Je suis la servante de Dieu », ça prouve pour nous, au point de vue théologique, que Marie s'est totalement consacrée à Dieu. Elle n'aurait pas pu dire cela si elle n'avait pas été totalement consacrée à Dieu. On ne peut pas se déclarer serviteur de Dieu si on n'est pas lié à Dieu par l'esprit de virginité. C'est la fidélité. Par l'esprit d'obéissance, c'est la douceur. Par l'esprit de pauvreté, pour ne jamais s'arrêter à ce que nous faisons. Et toujours aller plus loin pour nous donner nous-mêmes. Ce n'est pas nos œuvres que nous donnons à Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas les choses qu'on est capable de faire. C'est nous-mêmes qui sommes donnés à Dieu. C'est ça l'esprit de pauvreté. C'est qu'on est entièrement remis à Dieu. Alors, peu importe ce qu'on fait, ça n'a pas grande importance. Ah oui, psychologiquement, c'est très bien. Parce qu'on a tous des qualités particulières pour faire la cuisine ou pour faire de la métaphysique. Alors, on aime mieux, quelquefois, faire de la métaphysique que de faire la cuisine. Par rapport à Dieu, il n'y a pas grande différence. Au sens propre, hein. Il n'y a pas grande différence par rapport à Dieu. Le tout, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça l'intérêt et l'importance, vous voyez. Et c'est ça que la petite Thérèse avait si bien compris. La balle du bon Dieu, c'est ça. Être la petite balle du bon Dieu. C'est de plus regarder le contenu de ce que nous faisons, mais de regarder la référence à la volonté du Père. Et c'est ça qui fait de nous un serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est toujours fixé vers la volonté de celui dont il dépend. Et qui n'est pas fixé en premier lieu à l'œuvre qu'il fait. C'est difficile parce que ça demande une conversion constante. Hein, et une conversion qui exige de nous de devenir des petits serviteurs de Dieu. Ou des grands serviteurs de Dieu. Ça dépend comment on le regarde. Ça revient au même du reste, petit ou grand là. Parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Et on devient des instruments de Dieu. Et les vœux doivent permettre de devenir des enfants bien-aimés. L'esprit de virginité permet à la foi, à notre foi théologale, de tendre vers la contemplation. L'esprit d'obéissance nourrit notre espérance et notre charité. Et l'esprit de pauvreté également. Il y a des liens mystérieux entre les deux. Je peux dire que la pauvreté nous aide à espérer d'une manière eschatologique. Être pauvre dans notre espérance. Ne pas nous arrêter à tel ou tel aspect. Et je peux dire aussi que l'amour théologal creuse en nous une béance, une pauvreté radicale de celui qui attend tout de Dieu. Et l'esprit d'obéissance permet à l'espérance d'être forte et permet à l'amour de s'incarner. Ce n'est pas celui qui dit « mon Dieu » qui entre dans le royaume de Dieu. C'est celui qui fait la volonté du Père et donc celui qui obéit. C'est une espèce d'incarnation profonde. Il faut bien saisir comment l'esprit de nos voeux, c'est ce qui nous relie de la manière la plus intime à la volonté du Père. C'est pour ça que c'est si grand. Il faut aimer l'esprit de nos voeux en en voyant la grandeur, sans voir le petit aspect juridique. C'est pas ça qui est important. Nous ne serons pas jugés sur cet aspect juridique. Cet aspect juridique, il est nécessaire tant qu'on est sur la terre, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'esprit qui nous lie. Et vous voyez, c'est cela que Marthe comprenait, qu'il fallait un renouveau de la vie religieuse, que la vie religieuse s'était trop arrêtée à un aspect juridique, et qu'il fallait revenir à la source. Et la source, c'est le cœur de Marie. Et c'est pour ça que pour nous, ça me semble tellement important. Là, je crois que la grâce de Marthe nous est donnée pour que nous puissions comprendre cela et que nous puissions le vivre. Vivre de l'esprit de nos voeux. Aimer d'entrer dans cet esprit de virginité, dans cet esprit d'obéissance, dans cet esprit de pauvreté. Voyez, on pourrait dire que si on regarde l'histoire de l'Église, on voit très bien que les vœux ont d'abord pénétré par l'esprit de virginité. C'est toute la vie monastique. Puis, il y a eu l'esprit de pauvreté. C'est la vie apostolique du Moyen Âge, les ordres mendiants. Puis, il y a eu l'esprit d'obéissance. C'était la compagnie de Jésus, Saint Ignace. Et tout ce qui est venu après Saint Ignace, c'était l'obéissance. On voit très bien cela. Et c'est vrai, selon l'économie divine, on comprend que, de fait, il y a eu comme un épanouissement successif des trois grands vœux. Qu'est-ce que Marie nous demande? Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande aujourd'hui? C'est de revenir à la source. Et à la source, c'est le cœur de Marie. Pour vivre selon un mode nouveau de ces trois vœux, à la manière de la petite Thérèse, dans l'abandon, en acceptant d'être entièrement sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est cela que Marie nous demande. Et je crois que c'est ça qui doit caractériser notre manière de vivre de ces trois vœux. À travers le cœur de Marie, vivre de cet abandon divin. Quand nous regardons le cœur de Marie, nous voyons que les vœux ont été pour elle source de cet épanouissement merveilleux de sa charité fraternelle. Ça aussi, c'est très important. Parce que ça fait partie de cette exigence pour nous, de ce renouveau. C'est à partir de sa consécration à Dieu que Marie va connaître ce lien avec Joseph, ce lien d'amour fraternel, qui ne s'oppose en rien à sa consécration et qui permet à sa consécration d'aller jusqu'au bout C'est très étonnant, cela. Et je crois que ça fait partie, là aussi, de la grâce de la communauté Saint-Jean. Une charité fraternelle très intense. Une charité fraternelle très forte. Avec ce caractère familial, mais dans un très grand respect de la diversité. Parce que c'est le propre de la famille, ça. Vous voyez, quand c'est trop codifié, alors il y a une taille un peu de l'extérieur. Il faut que ça devienne de l'intérieur. Et pour ça, il faut tout le temps revenir auprès du cœur de Marie. Pour s'aimer fraternellement, d'une façon très divine. En acceptant qu'il y a des ressemblances plus avec les uns avec les autres. Il y a des connaturalités plus profondes avec les uns avec les autres, c'est bien évident. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. C'est ça le caractère le plus essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. On n'a pas le droit d'exclure un frère en disant « cette tête, elle ne me revient pas ». On n'a pas le droit de faire ça. On a à considérer que tous ceux qui sont proches de nous, c'est l'Esprit Saint, c'est Marie qui les a mis à côté de nous. C'est Marie qui les a choisis pour nous. Nous n'avons pas choisi la communauté telle qu'elle est. Nous ne l'aurions sûrement pas choisi comme ça. Chacun d'entre nous, alors vous voyez, c'est agréable de se dire ça, n'est-ce pas, mutuellement. C'est bien évident qu'on ne l'aurait pas choisi comme ça. On l'aurait choisi beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, parce qu'elle aurait été selon notre choix. Et selon notre choix, elle n'aurait pas connu une telle diversité et une telle unité. Je vous ai déjà dit, et c'est tellement important de comprendre ça, l'unité de la communauté, elle est dans le cœur de Marie. Elle est dans le cœur de Jésus. Elle n'est pas dans le fait que nous ayons les mêmes opinions. Mais non, ça ce serait quelque chose qui n'irait pas du tout. Vous savez, égaliser nos opinions. Hein, on est beaucoup trop divers pour ça. Alors il faut accepter ce dépassement dans la charité fraternelle, dans l'exercice de la charité fraternelle, et comprendre que nos vœux doivent permettre un amour plus pur. On s'aime dans la lumière du cœur de Jésus et dans la lumière du cœur de Marie. Et Jésus et Marie sont présents à l'exercice de cette charité. C'est ça, s'aimer dans la lumière de l'esprit de virginité. L'esprit de virginité est loin de diminuer notre capacité d'aimer, augmente notre capacité d'aimer. Parce que nous rend plus sensibles et nous rend plus vulnérables et plus capables de saisir l'attraction du Père sur nous, l'attraction de nos frères, qui sont nos frères dans le Christ, qui sont notre bien dans le Christ. Mais on s'aime avec une liberté plus grande parce que justement, Jésus est présent. L'esprit d'obéissance fait qu'on s'aime avec un désir de réaliser ensemble l'œuvre du Christ. Et l'esprit de pauvreté fait qu'on se respecte. On n'a aucun désir de dominer l'autre ou de le posséder. Il faut comprendre comment l'esprit de nos vœux doit permettre un exercice plus divin de la charité et d'assumer d'une manière plus divine toutes les connaturalités qui existent entre nous et aussi d'assumer les diversités qui quelquefois pourraient être des antipathies. Au point de vue psychologique, c'est normal, hein, que nous n'ayons pas la même attraction vis-à-vis de chacun. Et donc, il peut y avoir des petites antipathies. C'est pas la peine de les crier trop, hein. et de dire à son voisin, tu sais, hein, c'est terrible d'être à côté de toi, hein, c'est un martyr, hein, ayant un peu de charité fraternelle de ne pas trop le dire, hein, parce que c'est mieux, vous pouvez le dire, hein, au Père Maître, vous pouvez le dire, hein, à ceux qui sont les représentants de Dieu auprès de vous, ça soulage de temps en temps, n'est-ce pas, mais le Père Maître gardera le silence, ne vous inquiétez pas, il ne le dira pas. Nous pouvons le dire aussi à Jésus, nous pouvons le dire aussi à Marie. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, n'hésitez pas de le dire. Elle avait telle sœur qui l'agaçait terriblement. Elle l'agaçait terriblement. C'est ça. Un tel m'agace invraisemblablement. C'est effrayant. Il pédale jamais du même pas que moi. Je ne sais pas ce qu'il y a, il passe toujours là, juste au moment où je suis là, comme si de fait il était juste en opposition, alors qu'il n'y pense même pas. Mais ça arrive, ça, vous savez, quand on a quelqu'un dans le nez, hein, ça peut très bien arriver, ça. Alors il faut dépasser cela dans la charité fraternelle. C'est normal, nous mettons du temps à aimer divinement, ça met du temps. Il faut accepter, hein. Le noviciat est fait pour cela, un laboratoire de la charité fraternelle. Alors de temps en temps, il peut y avoir des choses un petit peu difficiles, heureusement hein, que quand même, hein, ça ne va pas jusqu'à certains éclats trop violents, mais quelquefois quand c'est enfermé, c'est encore pire. Hein. Alors il ne faut jamais garder trop longtemps certaines animosités, il faut le dire à Jésus, il faut le dire à Marie, il faut le dire aux représentants du Christ pour nous, pour que notre cœur se purifie dans la charité fraternelle et que nous arrivions à nous aimer sur le modèle de l'amour de Marie à l'égard de Joseph. C'est si grand, c'est terriblement audacieux, hein. La charité fraternelle. Et c'est vrai, c'est terriblement audacieux de la part de Dieu de nous demander de nous aimer de cette façon-là, alors que de fait, les conséquences du péché font qu'il y a en nous des accrochages qui risquent justement d'être exclusifs, ou des oppositions qui risquent de faire que on n'arrive plus à se parler et à vivre ensemble. Il faut que l'amour de Marie pour Joseph soit victorieux de cela. Il faut souvent demander ça à la Très Sainte Vierge. Parce que l'amour de Marie pour Joseph est le modèle pour nous de ce que représente la famille divine et la famille divine de la charité fraternelle qui doit exister entre nous. Charité fraternelle, même à l'égard de ceux qui exercent l'autorité, voyez. Parce qu'il faut cette charité fraternelle, même à l'égard de ceux qui exercent l'autorité sur nous. On doit les aimer encore plus. On doit les envelopper de notre prière, notre charité, d'une vraie charité fraternelle. On doit les aider, leur porter, c'est vrai, leur porter toute notre affection pour eux et prier pour eux. La charité fraternelle s'exerce d'abord dans la prière. Marie a prié pour Joseph, pour que Joseph comprenne l'exigence que l'Esprit-Saint avait mis dans son cœur. Et Joseph a prié pour Marie. Et leur lien était si fort parce qu'il a été lié dans la prière. Alors nous devons nous aimer de cette manière-là pour qu'on puisse se supporter les uns les autres, mais se supporter au sens très divin. C'est-à-dire quand on sait que l'un lutte, on est là pour l'aider. Et dans une grande famille, il y en a toujours quelques-uns qui luttent. Il y en a toujours quelques-uns qui ont de la peine d'avancer. Et ça se voit quelquefois. Alors soyons discrets, hein, c'est pas la peine de dire « Qu'est-ce que tu as ? » Puis, 3 jours, tu as un visage effrayant. Mais non. Soyons suffisamment charitables pour ne pas nous en apercevoir. Et si on s'en aperçoit parce que c'est visible, hein, quelquefois, ça dépend. Il y en a qui cachent très bien leur jeu. Et puis il y en a qui ne le cachent pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est plus vertueux d'un côté que de l'autre, hein. Mais c'est parce qu'il y a une manière différente de cacher les difficultés qu'on a. Dès qu'on voit ça, dès qu'on s'en aperçoit, on prie. On prie pour celui qui a de la peine. Ça fait partie de la charité fraternelle. Ça fait partie de cette exigence de la charité fraternelle. Il faut essayer de comprendre comment Dieu a lié le cœur de Joseph et de Marie. Il a lié leur cœur. Vous voyez, quand on voit les grandes amitiés qui existent dans l'Ancien Testament, qui sont si belles, c'est dans le texte de l'Écriture quand même, hein. L'amour entre le vieux Jacob et le Benjamin, c'est quelque chose de préfiguratif pour nous faire comprendre l'amour entre Joseph et Marie, l'amour entre Jacob et Rachel. Ont l'occasion de le voir, parce que c'est tellement beau de voir ça. Regardez dans l'Écriture les tissus affectifs que Dieu a réalisés. C'est une manière très très belle de regarder l'Écriture, parce que c'est une des volontés du Saint-Esprit de faire cela. Et de comprendre que l'Esprit Saint veut que nous soyons un seul cœur, une seule âme, comme la communauté chrétienne au point de départ. Un seul cœur, une seule âme. Que nous puissions compter les uns sur les autres. Et quand l'un doit nous quitter pour telle ou telle raison, on sent que ça nous blesse. Et c'est vrai, si on s'aimait plus profondément, je crois que l'Esprit Saint ferait des miracles extraordinaires de conversion. Parce que la charité fraternelle, quand on prie les uns pour les autres, quand on prie pour la conversion de ceux qui sont proches de nous, l'Esprit Saint écoute cette prière. Et alors il y aurait des choses étonnantes. Mais qu'on voit dans les communautés charismatiques, il y a des choses étonnantes dans les communautés charismatiques à ce point de vue-là. Je ne vous demande pas d'être une communauté charismatique, ce n'est pas le charisme que l'Esprit Saint réclame de nous. Comme Marthe le disait, hein. Vous savez bien, Marthe le disait avec beaucoup de force. Une fois, j'avais prêché, sentant que je devais le dire, aux membres des foyers, en disant, vous n'êtes pas une communauté charismatique. Et quand je disais ça, ce n'était pas du tout pour diminuer, mais simplement pour comprendre qu'il y a une communauté charismatique très très bien. Ça existe, les communautés charismatiques, je les aime beaucoup. C'est très très beau, il y a de la ferveur, il y a quelque chose de merveilleux. Et Marthe, 3 mois après, m'avait dit « Merci d'avoir dit ça, parce que moi, je ne peux pas le dire. » C'est évident. Marthe était un charisme vivant. Et donc, elle était au cœur d'une communauté silencieuse, mais elle ne voulait pas que sa communauté soit une communauté charismatique. Et elle me disait à ce moment-là des confidences merveilleuses. Vous avez bien le Père, il est très pris par les jeunes. Alors quand il y a des jeunes qui sont charismatiques, ben il les écoute. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Je crois que toutes les paroles que Marthe comme ça disait, c'était pas le hasard. C'est pour qu'on comprenne mieux. Il y a des communautés qui doivent garder le silence de Marie. On doit être gardiens les uns des autres du silence. Et du silence de Marie, et du secret de Marie, comme Marie était gardienne du silence de Joseph, et Joseph était gardien du silence de Marie. Et on doit être gardiens les uns des autres du silence d'amour que Dieu met en nous. On doit céder, voyez, à vivre un silence divin d'amour. C'est pas commode, hein, de vivre un silence divin d'amour. C'est difficile. On le sait bien. Et on doit tout le temps se reprendre là-dessus. Et si un de nos frères bavarde, parce qu'il y a, C'est la démangeaison de temps en temps de bavarder, vous comprenez. C'est le vieux siècle qui pénètre encore. Et puis c'est la tentation, que voulez-vous, quand on est soi-même tenté, alors on se met à bavarder. Eh bien, quand un de nos frères bavarde, on n'a qu'à lui dire avec beaucoup de gentillesse, « Regarde Marie. » Alors il comprendra à ce moment-là qu'on lui dit avec beaucoup de gentillesse, « Regarde Marie, si Marie était là, vous bavarderiez moins. » C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et c'est vrai, on n'a pas à se faire des leçons mutuellement les uns des autres, mais on a gardé le silence de Marie, comme un trésor. C'est le trésor que Marie veut nous donner. Ça, je vous affirme, c'est le trésor que Marie veut nous donner. Alors on doit essayer de le garder comme un trésor qui vient du cœur de Marie, comme Joseph a gardé ce trésor. Nous devons être une communauté qui tende vers la contemplation, dans la charité fraternelle. Et la charité fraternelle doit nous aider à garder ce secret de Marie, à comprendre que nous avons tous un secret à porter. C'est vrai, la plupart du temps on dit des tas de choses qui sont complètement inutiles. Et puis on les dit encore d'une manière trop mondaine, pas assez divine. Alors il faut, tout le temps, je n'ai pas d'exemple immédiat, mais c'est vrai, on le sent bien, vous savez, on sent bien si on est entré dans le silence profond du cœur de Marie. Il faut toujours y entrer plus à fond. Et ceci, ça fait partie, voyez, de l'exigence de la charité fraternelle. Dans la règle, il est dit que l'exercice le plus éminent de la charité fraternelle, c'est la prière liturgique. On pourrait peut-être dire que l'exercice le plus éminent de la charité fraternelle, c'est d'être gardien du silence de son frère. Ce serait peut-être encore plus vrai de dire ça. C'est d'être gardien du silence de son frère et d'être là pour l'aider à garder le silence. Et quand il a envie de parler, lui faire comprendre que nous aussi on a envie de parler, mais qu'on se tait par amour pour lui. Alors à ce moment-là, il va entrer dans le silence. Il va entrer dans un silence nouveau. Il faut l'entraîner. Il faut s'entraîner dans ce silence. Il faut céder. Parce que ça met du temps, ça met du temps avant de devenir un être silencieux. La charité fraternelle de Marie et de Joseph. Il faut y revenir souvent. Cette charité fraternelle faisait que Joseph et Marie avaient une liberté encore plus grande dans leur consécration à Dieu. La charité fraternelle doit nous permettre d'aller plus loin dans notre consécration à Dieu que s'il n'y avait pas cette charité fraternelle. Parce que la charité fraternelle, c'est un don de l'Esprit Saint dans notre cœur qui nous lie à ceux que l'Esprit Saint a mis proche de nous. Pas seulement ceux qui sont ici, hein, mais tous ceux que l'Esprit Saint a liés avec nous. C'est vrai, c'est tous ceux qui sont autour de nous et que nous connaissons. C'est cette purification de ce que représentent tous ces liens avec tous ceux que nous aimons et que nous devons offrir au Seigneur, perpétuellement les offrir, pour aller plus loin dans cette consécration et faire que cette consécration soit vécue d'une manière plus libre et plus aimante. C'est au moment où Marie est fiancée à Joseph que l'ange Gabriel vient auprès de Marie. Nous avons ce troisième moment qui est si important. La visite de l'ange auprès de Marie. La salutation de l'ange à Marie. C'est l'exigence de la vie contemplative. Vous voyez, vous avez, et c'est ça qui est admirable dans le mystère de Marie, c'est qu'il y a un ordre de sagesse divine qui est parfait. Il y a un ordre de sagesse divine. La consécration de Marie la met verticalement en face de Dieu, dans l'adoration. C'est l'adoration qui permet de vivre de l'abandon. C'est l'adoration qui permet de vivre de l'esprit dévot. Puis, le lien avec Joseph, cet épanouissement merveilleux et cette joie dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph. Et c'est au moment où il y a cette joie si grande dans le cœur de Marie qu'il y a ce rapt d'amour, qu'il y a le premier moment de la contemplation chrétienne. Et pour comprendre ce que c'est que la contemplation chrétienne, il faut tout le temps revenir au mystère de l'Annonciation. Notre vie religieuse doit nous lier à nos frères dans la charité fraternelle et doit nous permettre d'entrer dans ce don de la contemplation. Si nous sommes entrés dans la communauté Saint-Jean, nous savons que Marie veut pour nous une grâce de contemplation. Il faut le savoir, ça. Et comprendre qu'il y a une exigence de contemplation. Et c'est le mystère de l'Annonciation qui doit nous aider à comprendre cette grâce de la contemplation. Le point de départ de la contemplation chrétienne, c'est l'Annonciation. Alors il faut regarder ce mystère avec beaucoup d'attention. Parce que nous avons tout le temps entré dans ce mystère. Vous voyez la manière dont l'ange regarde Marie. Et l'ange, il est l'envoyé du Père. L'ange nous montre le regard du Père sur sa petite enfant immaculée. Pour le Père, Marie est l'Immaculée. C'est sa petite enfant immaculée, totalement consacrée, totalement donnée. Et donc le Père sait qu'il peut tout lui demander et que Marie sera là capable de répondre. Parce qu'elle est totalement consacrée, parce qu'elle est consacrée jusqu'au bout. Le Père regarde Marie pour apprendre à Marie de se regarder dans l'amour. Marie, dans sa consécration à Dieu, ne se regarde pas. Elle est effacée en face de Dieu parce qu'elle est dans cette attitude de l'adoration. L'adoration, c'est laisser Dieu passer devant, c'est le propre de l'adoration. C'est de s'effacer en face de Dieu. Et voilà que Dieu fait passer Marie devant. C'est bouleversant, ça. Chaque fois que Dieu nous donne une grâce de contemplation, Dieu nous fait passer devant. C'est Dieu qui nous salue en nous faisant comprendre son amour. Nous avons besoin de comprendre cela. Dieu nous a aimés le premier. Et nous a aimés gratuitement. Non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de nos qualités, non pas à cause de telle ou telle chose qui sont belles en nous et qui sont que les autres regardent. Dieu regarde plus profondément Marie que Joseph. Joseph, il a été séduit par les qualités de Marie. Joseph, il a été saisi par ce qu'il ressentait d'unique en Marie. Mais avant que Joseph n'aime Marie, le Père aimait sa petite enfant et l'enveloppait de son amour paternel. Au-delà de la charité fraternelle, il y a cet amour du Père. Au-delà de l'amour de tous ceux qui sont proches de nous, il y a l'amour du Père sur nous. Et c'est dans la mesure où nous comprenons cet amour que nous entrons dans cette contemplation. La salutation de l'ange à Marie. C'est très grand, la salutation de l'ange à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. C'est une salutation, c'est dit textuellement dans le texte de l'Écriture. Alors, peu importe comment vous traduisez, hein, on discutera ça avec Marie dans le ciel. Hein. Kairé, hein, c'est chose admirable. Cette chose extraordinaire. Alors dites-le en grec, comme ça il n'y a plus besoin de traduire. Hein, et tout le monde est d'accord. Alors on dit Kairé, merveilleux. Elle est saluée. Elle passe devant. Le Père la met en face de lui. Dans un face-à-face. C'est Dieu qui nous prend et qui nous met en sa présence. C'est Dieu qui fait ça. Et c'est ça la contemplation. C'est Dieu qui nous prend et qui nous met en sa présence. Kairé. Essayez de comprendre tout le poids de cette affirmation. Parce que ça nous aide à entrer dans la contemplation. Pour nous aussi, hein, ça nous est dit. Puisque Marie est notre mère. Alors, tout ce qui est dit à Marie nous est dit. C'est ça la maternité divine de Marie. Elle ne garde pas jalousement quelque chose pour elle. Si elle gardait jalousement quelque chose pour elle, elle ne nous aurait pas dit. C'est Marie qui a communiqué à Jean le mystère de l'Annonciation. Et Jean l'a communiqué à Luc pour qu'il nous soit donné. Et que nous comprenions que le Père nous salue comme il a salué Marie. Voyez, si le matin, dans notre oraison, nous nous mettions tout de suite dans cette salutation, que nous entrions dans ce Kairé, le Père qui nous salue, je vous salue, pleine de grâce. Alors évidemment, ça nous met dans une joie profonde. On est salué par le Père. Et c'est vrai, c'est ça la contemplation. C'est le Père qui nous regarde comme un petit enfant bien-aimé. Vous savez, c'est la manière dont les mères italiennes jouent avec leurs enfants. C'est extraordinaire. Les mères françaises font moins bien ça. Mais les mères italiennes font ça d'une façon étonnante. Et quelquefois en Afrique aussi, on voit ça. Les mères aiment de jouer avec l'enfant. Et puis de le regarder, hein, de faire que l'enfant regarde sa mère. Alors on l'élève pour qu'il soit à la même hauteur. Et puis on le secoue pour qu'il se réveille. Et qu'il soit attentif. C'est ça la salutation du Père. C'est d'élever Marie. D'élever cette petite créature pleine de grâce, immaculée. À son regard de Père. La première fois où Marie, dans son regard de foi, d'espérance et d'amour, a regardé le Père qui l'a regardé. Une salutation, c'est ça. Et quand il s'agit d'une salutation du Père à l'égard de son enfant, c'est une salutation contemplative, ça ne peut pas être autrement. Le Père ne peut qu'avoir un regard contemplatif, qui attire, et qui fait comprendre que Marie doit le regarder. Kairé. Marie doit regarder le Père. Je vous salue pleine de grâce. C'est donc toute la salutation de plénitude d'amour. Marie est aimable pour le Père. Et nous savons que dans notre regard sur le Père, nous sommes aimables pour le Père. Pas par nous-mêmes, c'est bien évident. Parce que nous, hein, c'est le péché. Conséquence du péché, nous sommes nés dans le péché. Mais Marie nous revêt de sa grâce, de son immaculée. Et donc, nous pouvons regarder le Père comme Marie l'a regardé. On comprend très bien comment cette salutation reçue dans le cœur de Marie, reçue au plus intime de sa foi, de son espérance et de son amour, cette salutation qui l'éveille à quelque chose de nouveau, il y a une étape nouvelle dans le cœur de Marie. Jusque-là, on pourrait dire que c'est l'adoration qui domine. C'est l'effacement. Un effacement d'amour, mais un effacement dans une pauvreté totale. Marie s'est consacrée à Dieu dans cette pauvreté de la petite servante. Et voilà qu'à partir de cette pauvreté de la petite servante, il y a un appel. Une salutation, c'est un appel. C'est le Père qui l'appelle. C'est le Père qui veut que Marie la regarde. Que Marie soit attentif à son appel d'amour. Et le Père se sert de l'ange. Le Père aurait pu, directement, l'annonciation faite à Abraham. Il faut toujours se servir de l'annonciation faite à Abraham, parce que nous l'aimons beaucoup, celle-là, avec l'icône magnifique. Les trois. C'est Dieu lui-même qui s'est dérangé pour Abraham. Et quand il s'agit de Marie, il envoie son ange. On pourrait dire quand même, il aurait pu se déranger pour la très sainte Vierge, puisqu'il s'est dérangé pour Abraham. C'est mystérieux, ça. C'est quand même très étonnant. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Alors qu'il demande à Marie une plus grande contemplation qu'Abraham. On ne peut pas dire, Abraham, oui, il était en présence des trois. Il était un peu effrayé, mais il était en même temps saisi par cette présence. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour répondre à l'invitation. C'est lui qui a invité les trois. Tandis que quand il s'agit de Marie, c'est Dieu qui a pris l'initiative et qui l'invite en la saluant. Pourquoi Dieu s'est-il caché à travers l'ange Gabriel? C'est pour laisser Marie plus libre. Et c'est peut-être cela qui nous fait toucher ce qu'il y a de plus profond dans la contemplation chrétienne. C'est que Dieu veut qu'il y ait cette liberté totale dans l'amour. Vous voyez, l'acte d'adoration, c'est avant tout un acte d'obéissance. Nous adorons dans l'obéissance parce que nous sommes une petite créature en face de Dieu et que nous savons que nous devons adorer. Quand il s'agit de la contemplation, c'est l'amour qui domine. Et l'amour réclame cette liberté. C'est pour que nous comprenions cette liberté nouvelle qui va surgir dans le cœur de Marie, pour que Marie se présente. Elle se présente au Père. Parce que Marie ne s'arrête pas au messager. Marie sait que l'ange, c'est un envoyé. Et que c'est celui qu'elle représente qui intéresse Marie. C'est pour ça qu'elle est toute troublée de voir que Dieu la salue de cette manière, que le Père lui demande d'être attentif à cet amour qu'il lui porte. Elle est enveloppée de cet amour. Et Marie va répondre à cet appel du Père en acceptant de recevoir le secret que le Père lui confie. Le premier secret de la vie de la Très Sainte Vierge, C'est sa consécration. C'est elle qui le réalise avec l'Esprit Saint, sous le sceau de l'Esprit Saint. Le second secret que Marie reçoit, c'est un secret contemplatif. Et c'est le don que le Père lui fait de son Fils. Et pour que Marie puisse recevoir ce don, il faut qu'elle soit présente dans l'amour, dans cette attitude contemplative. On ne peut recevoir le secret du Père que si on est attentif à son amour et à la plénitude de son amour, que si on est tout entier tourné vers lui. Et Marie reçoit le secret du Père. Vous savez bien, les exégètes se demandent si Marie a eu conscience que c'était vraiment le don du Fils éternel du Père. Quand l'ange lui dit que c'est le Fils du Très-Haut, que c'est le Fils de Dieu, est-ce que Marie a cru que c'était uniquement un don merveilleux, étonnant, d'un envoyé de Dieu, ou qu'elle a pénétré dans le mystère de la très sainte Trinité? Je crois que nous pouvons, avec les pères de l'Église, dire que Marie, qui comprenait beaucoup mieux l'Écriture que nous, parce qu'il y avait une limpidité du cœur et une foi plus grande, on pénètre plus avant dans l'Écriture, en raison de l'intensité de notre foi. Si notre foi est plénière, nous allons très loin dans le mystère. Si notre foi n'est pas plénière, nous restons à l'écorce. Alors il faut comprendre qu'il y a dans le cœur de Marie une plénitude de foi plus grande que celle d'Abraham. Et donc Marie va plus loin qu'Abraham. Beaucoup plus loin. Marie va beaucoup plus loin que l'intelligence des prophètes. Parce qu'il y a une plénitude de foi. Et que de fait, la foi de la très sainte Vierge est quelque chose qui reprend tout. C'est une foi contemplative. Et parce qu'on ne s'arrête pas à ce qu'elle peut comprendre. Il y a une différence entre la foi de celui qui médite et la foi contemplative. La foi de celui qui médite s'arrête à ce qu'il comprend. C'est souvent la foi du théologien, vous voyez. C'est la foi de l'exégète. Il s'arrête à ce qu'il comprend. La foi contemplative dépasse ce qu'on comprend pour adhérer au mystère. Parce qu'on ne contemple que le mystère. On ne contemple pas ce qu'on comprend par la parole de Dieu. Puisque ce qu'on comprend de la parole de Dieu n'est pas le mystère. Et qu'on ne peut contempler que le mystère. Et donc c'est nécessairement ce dépassement à l'égard de tout ce qu'on peut comprendre par la parole pour entrer dans le mystère, pour être saisi par le mystère. Parce que dans la contemplation, il y a un rapt d'amour. On est saisi au-delà de ce qu'on comprend, au-delà de ce que nous pouvons dire, et on entre dans le mystère de la très sainte Trinité. La contemplation chrétienne, c'est entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Entrer par le don que le Père nous fait. C'est par le Fils qui nous est donné que nous entrons dans le mystère de la paternité. Marie est entrée dans le mystère de la paternité par le don que le Père lui a fait de son Fils. Et c'est pour ça de se demander la conscience que Marie a eue, c'est oublier la contemplation de Marie. Que les exégètes se demandent ça, très bien. Mais nous allons plus loin, et nous devons aller plus loin, puisque nous savons que Marie ne s'est pas arrêtée à la compréhension qu'elle avait de la parole de l'ange. Sa foi plénière, sa foi contemplative, lui permet de recevoir le don que le Père lui fait de son Fils. Et Marie adhère à ce don, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne répond pas du tout selon ce qu'elle a compris, mais selon ta parole. Voilà la vraie réponse. Marie sait très bien que la parole de Dieu va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons comprendre, puisque la parole de Dieu est le véhicule du don du mystère, et que le don du mystère va plus loin que l'instrument dont Dieu se sert. Dieu, en nous parlant, se donne. Et chaque fois que Dieu nous parle, il se donne. Et nous, nous nous arrêtons à l'extérieur, nous nous comprenons de la parole. Sainte Catherine de Sienne est farouche là-dessus. Hein. Elle est farouche. Presque plus que saint Thomas. C'est pas étonnant, c'est une femme. Hein. Contemplative. Elle comprend ce que c'est que la contemplation de Marie. Alors elle dit qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ce que nous comprenons. Parce qu'à ce moment-là, nous tournons autour. Il faut entrer dans le mystère. C'est ça la contemplation. C'est dépasser tout ce que nous comprenons pour adhérer au mystère. On sait qu'on est aimé et on répond à cet amour. Et on laisse Dieu, on laisse le Père nous donner son Fils, pour que son Fils prenne tout en nous. Marie a été dans cette attitude de réceptivité à l'égard du don, une réceptivité dans sa foi, une réceptivité dans son espérance.